toi depuis plus de 2 jours. Dans ma chambre étudiante, je commence à faire des petits tours.
Hey, sors de chez toi un peu là. Hey!
Si tu continues à me cacher,
hey,
ta vie privée,
es-tu une lourde?
Tu te sens seule le troisième mardi du mois, de 20h à 21h? Moi aussi. Alors rejoins-moi pour faire des LGBTs sur Radio Campus Angers. Culture queer, anecdotes, philo, art. La soirée s'annonce haute en couleurs sur LGBTs.
Bonsoir, bienvenue à tous sur LGBTs, il est 20h et on se retrouve pour une heure de commérage intensif et historique. Alors ce soir, on est avec Baptiste et Nouy. Bonsoir.
Bonsoir.
Qui êtes-vous?
Moi, je suis Baptiste, je suis en licence L3 de langue, littérature et civilisation étrangère en anglais.
Oh.
Et je suis gay.
Bravo.
Bravo.
Merci.
Yay.
Merci.
Moi, je suis Nouille, je suis en troisième année aux Beaux-Arts d'Angers et je suis trans.
Yay, bravo!
Non binaire.
Et moi, c'est Charlie, et pareil que Nouille, je suis étudiant aux Beaux-Arts en troisième année et je suis trans PD. Voilà, bravo
Nouille!
Alors, Baptiste nous a concocté un petit cocktail d'icônes queer et de cinéma. Mm-hmm. Nouille va nous éclairer avec son horoscope et ses reviews de séries. Et je voulais vous proposer une discussion autour de l'idée qui dit que être queer rend artiste. Voilà, c'est à peu près tout pour ce soir.
Très bien.
LGBTs.
Alors, je vais commencer par mon petit horoscope, évidemment 100% fiable. Mmh. Donc, on va commencer par les Capricornes. Toucher du bois et arrêter les gueules de bois. Les Verseaux. Tout le monde se confie à vous, mais c'est parce que vous avez une bonne tête. Poisson, personne ne vous aime.
Direct, oh. Direct.
Non mais c'est bon là. Ici, ça dit les termes. Bélier, visez la lune, vous réveillerez avec le doigt qui pue.
Je suis bélier.
Drama dans la villa.
Anyway, les Gémeaux, l'hiver est rude. Pour faire des économies, je vous propose de manger vos morts.
Pas mal.
Les Cancers, apprendre des faits anodins sur les animaux marins vous permettra de briller en société.
C'est toujours vrai.
Les Lions, à grougrou, ce mois-ci vous êtes un vilain chaton.
Ouh.
Les Balances, quelques problèmes techniques peuvent survenir. Évitez les micro-ondes. Les Scorpions, en ce moment vous êtes bad excité. Les Sagittaires, offrir 1000 euros à votre enfant vous permettra d'avoir beaucoup de chance ce mois-ci. Ma mère est Sagittaire.
Super.
LGBTs.
Alors du coup, moi, pour ma première rubrique, j'ai voulu parler d'icônes queer, parce que je me suis toujours posé la question de pourquoi nous, les homosexuels, PD, trans, queer, pourquoi nous avons des icônes gays, pourquoi pas des icônes hétéros. Et je me suis rendu compte que même si la cause LGBT a évolué depuis de nombreuses années, depuis toujours, nos existences ont toujours été mises en question et tout le tralala, il y a un truc qui est toujours resté, c'est les icônes gays. Et j'ai vu que depuis les années 1900, je me suis arrêté là parce que si je faisais tout depuis hyper longtemps, on n'allait pas s'arrêter. Mais dans les années 40, par exemple, on avait Catwoman qui représentait la femme libérée. Dans les années 70, on avait Dalida, Elton John, David Bowie. Dans les années 80, Whitney Houston, Diana Ross, Mylène Farmer, Prince. Dans les années 90, Madonna, Kylie Minogue. Et puis après, dans les années 2000-2010, Britney Spears, Beyoncé, Nicki Minaj. Les artistes qui ont bercé toute notre enfance, finalement.
C'est vrai.
Et moi, je voulais vous demander, du coup, Nouille et Charlie, quelles sont vos icônes queer?
Je pense que toutes les pop stars des années 2000, Beyoncé, Lady Gaga.
Lady Gaga, ses clips.
Ouais. Surtout Born This Way. Je sais que j'ai eu mon gay awakening sur I Wanna Go, le clip de Britney Spears. J'aurais fait tourner le micro, elle est à moitié à poil et j'étais en mode
star.
Oh, bonjour madame. Mais Surtout ça, puis je pense quand on pense icône queer pour notre génération, c'est surtout ce genre de femmes.
C'est des chanteuses souvent, je trouve, enfin des femmes chanteuses.
Ouais, bah, y a aussi dans la politique et tout, mais quand on était petits, on était beaucoup moins dans ça, donc c'est sûr, la musique c'était le premier chemin, quoi, vers le gay awakening.
Je pense que c'était beaucoup George Michael.
Ah ouais?
Oui. À l'ancienne.
Ouais, ah ouais, c'est toujours... T'es old school.
Ah oui, je suis un mec de la comédie musicale, okay. Ce genre de gay. Donc,
Theater Kid.
Yep. Je commence à l'accepter.
Ok, nickel. Et moi, je me suis demandé aussi, il n'y a pas longtemps, pourquoi ces personnes-là sont des icônes queer, pas plus qu'une autre personne, finalement. Et je me suis rendu compte que quand même, c'était des femmes qui, pour la plupart, en tout cas dans notre génération, années 2000-2010, c'est des femmes qui représentaient quand même une certaine forme de libération, des codes et des hommes surtout. Des femmes qui n'avaient pas honte de parler de leurs sentiments, de se mettre nu à l'écran finalement. je pense que ça rejoint vachement aussi notre cause de on n'est pas pareil, quoi. Et puis je pense que c'est très important quand on est petit et qu'on est encore au placard de savoir que y a des icônes queer qui sont là un peu pour finalement nous représenter, donc
nous guider un peu.
Ouais, finalement c'est un peu deep ce que je suis en train de me dire. Mais j'ai pris aussi un peu des exemples d'icônes queer comme Katy Perry. Genre, je me souviens quand on regardait ses clips, si tu regardes tous ses clips, c'est un personnage très drague, genre Katy Perry. Genre, elle se met quand même dans des rôles qui ne sont jamais les mêmes dans tous ses clips. Et elle n'a pas honte de se mettre un peu, de se foutre un peu la honte, quoi. Dans Last Friday Night, elle représente un peu la petite fille, un peu. Oui.
Et puis I Kissed a Girl aussi.
Mais oui, non, mais tellement. Ouais. Mais même dans E.T., aussi dans lequel, je crois que c'est Part of Me.
Où elle est en mode.
Ouais, ça c'est Firework.
Ah, Firework, ouais. Non, sorry.
Mais vraiment, ce personnage a bien bercé toute mon enfance. Et je me suis aussi demandé pourquoi les icônes queer ne sont pas forcément des personnes LGBT.
Ouais.
Et c'est ça, genre ça, c'est le gros questionnement, parce que c'est des personnes qui ont des fois rien à voir avec la commu LGBT, mais finalement qui apportent beaucoup à notre commu. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez de ça.
J'ai une théorie, ouais, là-dessus. Vas-y. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est souvent des personnes qui brisent quand même les codes... des normes sociales, enfin en tout cas moi je pense aux pop stars comme Lady Gaga etc et tout, enfin au Britney Spears, c'est des meufs super libérées qui ont un peu le personnage, bon je vais prendre Britney Spears en exemple, c'est un peu le personnage de la bimbo, la blonde à la base c'était genre star child qui après s'est complètement émancipée de ça et genre a grave capitalisé sur sa sexualité etc et genre je pense aussi que tout ça là, tous ces icônes queer qu'on a eu au début des années 2000 qui sont des femmes, déjà c'est parce que la représentation des hommes qu'on avait à l'époque, c'était pas vraiment, ça n'avait pas rêvé, en tout cas pas rêvé les queers.
Oui.
Et aussi qu'on avait peu de représentations queer vraiment, à part les films badants genre, si tu veux, en mode drame, psychologique, nanana. Il n'y avait pas vraiment de pop star, de mannequin. En fait, c'est les métiers qui font rêver d'être pop star, d'être mannequin. Genre, par exemple, Naomi Campbell aussi, c'est une icône queer, mais parce que c'est des trucs qui feed the fantasy. Et aussi, j'avais vu que dans les années 80-90, avec la scène du ballroom, les personnes noires, américaines, gays, queer, trans, etc., recréaient ces métiers-là.
Oui, bah oui.
Enfin, pas forcément des métiers, mais du coup, là, c'est vu que c'est des célébrités.
C'est un mode de vie, en fait, en soi.
C'est ça, c'est des gens qui sont médiatisés, et du coup, ça donne envie, quoi. Juste,
Oui, c'est sûr.
Et je pense aussi, le fait que ce soit des femmes, c'est un peu le rôle d'allié, je pense, qui joue beaucoup. La plupart... ce qui est marrant aussi, je trouve, dans ces icônes-là, c'est qu'il y en a plein qui, de manière assumée et revendiquent aussi beaucoup... le fait que, par exemple, la grosse partie de leur communauté, ce soit des queers.
Ouais, bah oui.
Genre Lady Gaga, même, je sais pas, je pense à Jennifer Coolidge. J'ai vu plein d'interviews d'elle que si les queers n'étaient pas là...
trying to murder me.
Si ils n'étaient pas là à l'adorer, elle n'aurait pas d'audience. Ouais, bah oui. Et du coup, en fait, je pense que ces femmes-là, souvent, elles se retrouvent un peu dans un rôle auquel elles ne pensaient pas forcément de base. Et il y en a qui plus ou moins l'acceptent et choisissent un peu d'avoir aussi ce rôle d'allié que, par exemple, Lady Gaga a fait, mais à la perfection. Quoi.
Après, je trouve qu'il y a des fois aussi le danger de capitaliser sur nos existences, tu vois.
Oui.
De se dire, bon, allez, je vais faire... Bon, je sais que Beyoncé, même si j'adore cet album, a été accusé de renaissance, enfin, dans Renaissance, de... Enfin, elle a vachement repris tous les codes de la ballroom. C'est ça, du coup, bon, c'est...
Comme Madonna avec Vogue, où les gens pensaient qu'elle avait inventé le voguing.
Ouais, c'est ça.
Non, girl, tu l'as volé.
Donc, bon, écoute, on fait avec, on va pas... On ne peut pas retourner en arrière, malheureusement.
Ouais, mais je pense qu'à une époque, avant, c'était moins mal vu parce qu'on avait tellement peu de représentation, alors que maintenant, des personnes qui ne font pas partie de la communauté et qui réutilisent ces codes-là les utilisent quoi, dans leurs clips, etc., là, on a un peu l'impression de capitaliser là-dessus, alors qu'à l'époque, tu ne pouvais pas capitaliser là-dessus. Donc les personnes qui faisaient ça, ce n'était vraiment pas pour
c'est sûr.
Se faire du bif.
Encore aujourd'hui, je te coupe, mais il y a plein de trucs comme ça. Je sais pas si vous avez vu le coup de gueule de Muriel Robin. Elle avait fait un coup de gueule, c'était quand.
Oui, j'ai vu, oui.
Je voyais ça passer sur Twitter. Je sais que c'était dans une émission sur France 2 où, en gros, elle faisait vraiment un coup de gueule en disant écoutez, moi, je suis une actrice, je suis lesbienne. Et en fait, depuis que j'ai fait mon coming out, on me propose pas de rôle parce que elle dit littéralement je suis une personne queer, mon corps n'est pas désirable, je ne suis pas pénétrable et donc par conséquent on va pas du tout me booker.
On va pas vouloir de moi.
La discrimination existe toujours
chose,
en fait. Et je pense que les icônes queer peuvent aider d'une certaine manière
À
civiliser, mais
c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais parler aussi Je voulais savoir pour vous, qu'est-ce que ça vous avait apporté dans votre enfance d'avoir une icône queer ? Parce que moi, honnêtement, mon icône queer... moi, c'est Lana Del Rey, tu sais bien. Lana Del Rey depuis plus de 10 ans. Et je me suis toujours dit, mais Lana, dans aucun de ses sons, elle parle, elle parle genre des personnes queer, tout simplement. Mais je pense que c'était juste... le fait, quand t'es encore au placard, je l'utilise beaucoup cette expression, quand t'es encore au placard, tu te sens vraiment seul, genre tu sais pas à qui parler, et je sais pas, le fait qu'une femme parle de relations avec des hommes, comme ça, et moi je m'imaginais en fait, j'étais en mode, je fermais les yeux, et puis, même si bon, les relations décrites dans les chansons de Lana Del Rey ne sont pas les plus saines, mais vraiment, genre, je trouve que c'est un truc qui aide vachement quand même à développer aussi son côté artistique, parce que on est à fond dans le truc, c'est ça, c'est que genre c'est un peu c'est un peu ce qui régissait un peu toute ma vie à une époque quand même, du coup genre t'es vachement dans un truc artistique où t'es à fond dedans, et du coup ça permet quand même de vachement développer son esprit artistique, t'as un peu envie de reproduire ce qu'elle fait, puis après tu vas vers d'autres trucs et tout, mais bon, ça va peut-être rejoindre ta rubrique de tout à l'heure.
C'est ça, mais c'est...
Donc
c'est,
je vais pas me... Et puis aussi, je trouve que le fait d'avoir des icônes gays, c'est que moi, au début, en cinquième, j'avais pas Twitter et tout machin. Et en quatrième, j'ai eu Twitter et je me suis rendu compte que... je suis pas le seul à aimer Lana Del Rey. Puis ils sont pas mal gays quand même, les gens qui aiment Lana Del Rey, tu vois. Et je trouve que ça a vachement genre apporté ce sentiment de faire partie d'une communauté.
C'est clair.
Et de se sentir tout simplement moins seul. Et genre, ça aide vachement à s'assumer, en fait. Parce que tu te rends vraiment compte que... T'es pas le seul, t'es pas seul gay sur Terre, en fait. Tu n'es pas malade, tu n'as pas une maladie, genre.
Oui.
Tu ne vas guérir de rien, genre. Enfin, juste t'es slay et puis point barre, genre.
Clair.
Mais puis aussi, genre, il y a une certaine exubérance dans les icônes queer qui est juste incroyable. Et je trouve que le message, tout simplement, c'est ne pas avoir honte de nos existences, en fait. Soyons qui nous sommes, et puis... C'est et puis basta, quoi, finalement.
Je trouve que souvent, c'est des personnalités aussi qui revendiquent beaucoup un peu le fait d'être très flamboyant. Ça me fait beaucoup rire que tu parles de Lana Del Rey, parce que j'avais pas encore forcément pensé comme ça. Vu que je transitionne, moi, quand j'étais fan de Lana Del Rey, ce que je suis toujours pour toute la vie, malheureusement.
Parce que pour ça, on va la voir.
Oui. Et en fait, je me souviens de ces musiques-là que j'écoutais et je me disais toujours, mais pourquoi c'est toujours une femme qui fait des chansons d'amour qui, dans les chansons, est genre au masculin, toujours. Pourquoi il n'y a jamais de chansons où ça va être un homme qui va chanter pour un autre. Enfin, c'était vraiment un questionnement que j'avais quand j'étais enfant où je me disais, mais c'est bizarre quand même, il n'y a que des trucs, des chansons... hétéro,
ouais, et
ça me posait juste question quand j'étais enfant de me dire bah ils sont où les autres les a perdus en chemin là
dans un contexte de vie à la campagne je ne savais même pas ce que c'était l'homosexualité. Moi j'étais en mode bon c'est juste la norme quoi, c'est juste normal, genre franchement je savais même pas que ça existait, mais pour moi c'était genre dans les films quoi, et encore le peu de films qu'il y avait à ce moment là quoi, un bon film on va dire, mais et je trouve qu'il y a aussi un truc sur ces icônes queer qu'il faut aussi vachement appuyer, c'est le fait qu'elles nous montrent aussi que nos existences sont quand même fragiles, avec l'exemple de Britney Spears, où on a complètement détruit sa vie, on a capitalisé sur son existence, et on se rend compte que c'est quand même genre une convergence des luttes dans les deux, parce qu'en fait, nos existences sont toujours remises en question. Et je trouve que ça, c'est un truc qui se rejoint vachement quand même.
Puis beaucoup aussi le truc un peu la comment on dit, la dépendance entre les communautés queer et aussi les femmes.
Ouais,
c'est
bah
des alliés en fait dans tous les cas,
c'est sûr.
Dans toutes les luttes, parce que quand les femmes perdent des droits, ça veut dire que ça va faire domino derrière. Enfin, souvent, en fait, on est un peu dans le même panier.
Bah oui, on finit.
Et je pense que ce qui arrive aussi aux femmes qui peuvent être des superstars queer, ça montre aussi beaucoup les problèmes.
Ouais, c'est sûr.
Ok,
j'ai fini ma rubrique.
LGBTise. Alors tout de suite, on va écouter Babylone de Lady Gaga, notre très chère déesse queer.
Icône queer.
Ancient city style, talk it out, babble on, battle for your life, Babylon. That's gossip, what you on, money don't talk, rip that song, gossip, babble on, battle for your life, Babylon. Babylon. Ancient city style, talk it out, babble on, battle for your life, Babylon. That's gossip, what you on, money don't talk, rip that song, gossip, babble on, battle for your life, Babylon.
LGBTise. LGBTIS.
Alors maintenant, je vais vous proposer une petite discussion qui est au final beaucoup dans la continuité de ce qu'on était en train de se dire là tout de suite. C'est que je me suis beaucoup posé la question de me demander, en fait, ça veut rien dire, si être queer rendait artiste, en fait, tout simplement. Est-ce que ça crée des possibilités d'être artiste plus facilement? Alors déjà, j'ai envie de poser une différence avant de commencer. C'est qu'il y a différents types de personnes queer. Et qu'il y a ceux que j'aime bien appeler les pratiquants, qui vivent plus ou moins en communauté, qui ont les codes culturels de la culture queer. Et il y a ceux qui ne vivent pas du tout en contact avec notre histoire collective, ou qui tout simplement en fait, rejettent leur identité. Pour la petite anecdote du moment, je pense à Gabriel Attal. Hein,
On va éviter le sujet.
Voilà, quand même, ouais. Pour dire que ce Premier ministre, il est gay, certes, mais il a choisi de choisir.
Il n'est pas dans les luttes.
Non, il n'est pas dans les luttes. Il a choisi des ministres homophobes qui sont littéralement contre lui aussi. Donc, être gay ne rend pas forcément intelligent, comme on peut le voir.
Non, c'est juste un homme de droite, finalement.
Voilà, les gays de droite, oui, un jour, va falloir m'expliquer vraiment c'est quoi leur problème.
Oui.
Vous vous tirez une balle dans le pied, en fait, en faisant ça.
Oui, ils aiment bien ça, peut-être, finalement, on ne sait pas. Il faut leur demander.
Je pense qu'il y a un peu de ça.
Ils ont peut-être des petits kinks.
Non, mais j'adore souffrir. Voilà, donc être gay ou queer ne rend pas miraculeusement une bonne personne. Et je pense que c'est quand même important de remettre les points sur les i.
Quand t'es un homme gay, mais que tu restes un homme cis blanc, tu cumules quand même assez de privilèges pour
ne pas
exercer ton oppression sur les autres, on va dire.
Donc là, pour le coup, on va parler évidemment des personnes queer qui sont pratiquantes de la queerness. Et donc, j'avais un peu envie de creuser cette théorie avec un peu une approche de sociologie de salon de thé. Et donc, j'ai rien trouvé sur Google. Il n'y a pas forcément d'écrit de choses qui peuvent donner des réponses. Et puis, j'ai repensé à la première émission qu'on a faite sur les pédales et leurs amis entre les révolutions. Le bouquin qui est juste ici avec moi, qui parle de queerness, de vie en communauté, un peu sous forme de fable. Et en fait, dedans, que le livre est écrit par Larry Mitchell, au cas où certains l'auraient oublié. Et en gros, y a cette question qui est posée en fait, plus ou moins dedans.
Okay.
Il dit « Les pédales cultivent avec les femmes les arts domestiques. Sous le contrôle des hommes depuis 2000 ans, les arts publics sont devenus trop déplaisants pour que quiconque les pratique avec plaisir. Toutes les grandes activités publiques du passé ont été transformées en jeux de chasse et de saisie, en jeux d'accumulation et d'expansion et de protection. » Et en gros, dans tout le bouquin, il dit « Les pédales et leurs amis sont des créatures qui aiment la beauté, qui aiment produire des choses. » Ça parle énormément aussi... de style, de vêtements, de mode, les intérieurs aussi. Je veux dire, les intérieurs des queers, genre les maisons, la décoration, c'est quand même...
On a du coup.
C'est hyper présent dans la communauté, les notions de l'esthétique, je trouve. Et donc voilà, je me suis posé la question de... Comme les cultures queer sont une sous-culture, on est dans une culture majoritaire qui est... Enfin, majoritaire. Qui est imposée comme la culture, entre grosses guillemets, considérée comme neutre, ce qui n'existe pas, hein.
Oui.
Mais la culture blanche, hétéro-patriarcale, cisgenre, et que du coup, la culture queer est un peu reléguée dans un plan très différent, et qu'il y a énormément, en fait, déjà, quand on regarde dans le passé, d'artistes, les plus grands artistes, concrètement, de tous les temps, la plupart, en fait, sont queer. Quand on se penche dessus, il y a plein de personnages... hyper important dans la littérature, je sais pas, je pense à Guillaume Apollinaire, j'en sais rien, Rimbaud, George Michael, je sais pas, il y a tellement de personnalités qui au final s'avèrent être gays et avec aussi tout ce discours, je sais pas si vous relate un peu à ce truc, mais d'être en cours par exemple au lycée et de voir quelque chose en histoire ou en littérature et que le prof dise ouais, ces deux-là, ils étaient très amis.
Oui.
Les meilleurs amis du monde.
Dis les termes au bout d'un moment.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est clairement ça.
Qui a clairement un effacement, en fait, gigantesque qui s'est produit historique sur beaucoup de personnages. Et alors, certes, ça pose le truc de... Bon, ça réduit pas toute l'identité d'une personne, on va pas la réduire soit à sa sexualité ou son identité de genre, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de sa personne et donc de son art, et que c'est vraiment grave que toutes ces choses-là soient effacées, ça crée un effacement très triste.
Mais c'est pourquoi le cacher finalement, vu que c'est quand même dans des moments où c'est important de le savoir, on veut savoir, il est en couple, il est pas en couple.
Oui,
c'est juste une relation entre deux personnes, on veut savoir genre les noms sur la relation, et puis bon, s'il est en couple, bah dis-le quoi. Fin...
C'est comme Montaigne et l'autre là.
Oui. Montaigne et la Boétie.
Ouais, voilà.
Parce que c'était lui, parce que c'était moi.
Ouais, non, mais c'est bon, leur lettre.
Voilà quoi. Voilà. Et je pense que honnêtement, le truc de se pencher sur le passé et de voir que ces personnes existaient déjà, en fait, ça peut permettre à beaucoup de monde de se rendre compte qu'en fait, non, aujourd'hui, on vit pas une fantaisie d'un coup, les queers, ça existe. Non, non, on a toujours été là, on sera toujours là. Mm-hmm. Et voilà.
Parce que c'est juste qu'on sort du gros placard, quoi, finalement. On est tous dedans, et puis là, on commence à dire, oh, je veux voir le monde tel qu'il est, tout simplement.
Il y a eu un gros placard pendant très longtemps. Bah, genre, on était tous dans une méga grosse boîte, là.
Puis au fur et à mesure, la boîte, elle a craqué.
La boîte, elle a craqué, voilà.
Et du coup, je voulais parler d'un workshop qu'on a fait aux Beaux-Arts ces derniers jours avec deux chercheuses militantes qui s'appellent Pauline Boulba et Aminata Labor. Je ne sais pas si je dis correctement leur nom de famille, mais voilà. Qui ont réalisé un film justement sur cette thématique-là, en fait, de recherche autour d'un personnage historique qui s'appelle Jill Johnston, qui était une chercheuse, écrivaine, militante, critique d'art, journaliste, lesbienne, autour de la Judson School de danse à New York dans les années 70 à peu près, et qui, en gros, elles sont parties, Pauline et Aminata, faire un film pour chercher les archives de cette femme qui, d'un coup, en fait, a disparu de toutes les archives, alors qu'elle était un des noyaux, en fait, de la Judson School, qui, dans le milieu de l'art, de la performance et de ces trucs-là, ça a été vraiment un gros pâté, un gros truc, un gros bail. Et en fait, qu'on a vu leur film aux Beaux-Arts, et il y a eu tout un truc de discussion et de recherche, elles se sont rendues compte que si Jill Johnston a été effacée de l'histoire, parce que maintenant, quand on l'étudie à la Judson School, mais Jill Johnston, elle n'existe plus. Et pourquoi? Certainement parce que c'était une femme lesbienne. Et ça...
Ça fout les boules.
Ça fout les boules.
C'est énervant.
Ouais.
Et il y a particulièrement, je pense, un silence qui s'installe et un effacement autour, surtout des lesbiennes, en fait, parce qu'elles sont encore beaucoup, très peu représentées, en fait.
Mais c'est ce qu'elle disait, quand t'es une femme lesbienne, si tu veux, une femme lesbienne. Bon, en fait, non, je dis de la merde, tu peux être non-binaire et lesbienne. J'allais me moquer de moi-même, mais en fait, non. Anyway, quand t'es lesbienne et que tu veux faire des recherches un peu sur la culture lesbienne dans le passé, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Hein, et l'aiguille, elle a été mangée. Et puis, il y a tellement peu de récits, d'histoires, de vie que c'est vraiment dans la communauté queer... C'est limite la lettre en LGBT, le L, il s'est perdu, quoi. Genre,
c'est la première lettre, hein, donc on peut se dire que c'est la plus importante. Mais...
Et oui, alors que les relations entre hommes, ça a été beaucoup plus documenté. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un bouquin qui retraçait toute l'histoire queer. Que je t'ai filé d'ailleurs,
oui,
Baptiste.
J'ai à peine commencé.
Et ben, ça m'a grave frustrée parce que ça, il y avait quasiment rien sur les lesbiennes. Ça se concentrait pas mal sur les relations entre hommes. Et je sais pas si c'était intentionnel ou quoi. Enfin, après, j'imagine qu'il y a quand même moins d'archives. Mais là, c'était quand même. T'avais quoi 2-3 pages sur 100 et des patates.
C'est vrai que le début que j'ai regardé, moi ce que j'en ai conclu du début, donc c'est genre 10 pages à peine, c'est que juste à l'époque on calculait pas les femmes tout simplement, du coup c'était encore pire pour les lesbiennes tout simplement, genre que tout se basait sur les hommes et l'importance des hommes.
Puis maintenant c'est encore le cas, j'ai l'impression, il y a pas longtemps, je me suis fait la réflexion de En fait, j'avais trop envie d'aller en bar lesbien, ou genre en boîte, quelque part où il y aurait un espace que entre go slash non-binaire, qu'aime les go slash non-binaire. Et ça m'a saoulé parce qu'il y a quasiment rien. En fait, les hommes, ils ont genre des saunas, ils ont des boîtes, ils ont nanana. Et quand on dit boîte gay, bah, c'est genre boîte gay et genre... Tu peux y aller en tant que lesbienne et tout, et puis dragouiller, mais c'est quand même une chance sur deux que là-bas, les go, elles soient hétéros, et qu'elles soient, accompagnent leurs potes. Il n'y a pas vraiment d'espace juste, à... bah, juste pour lesbiennes, quoi, ouais. Ou s'il y en a, c'est genre, il faut monter à Paris, t'as toujours le bar gay dans chaque ville. Là,
Du coin, quoi.
Du coin, voilà, t'as le bar gay du coin avec les mecs de 40 miteux, ans, là. Voilà. Il y en a toujours au moins un.
Oh, t'as plus ou moins envie déjà de foutre les pieds.
Ouais, c'est ça, oui.
On ne citera pas de nom. Mais,
mais vous savez.
Vous savez. Mais oui, en fait, c'est trop dommage que même aujourd'hui, on n'ait pas ces espaces-là et on n'ait pas bah, ces communautés-là, quoi. Où, quand on veut se retrouver entre lesbiennes, bah, genre, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'espace. Ouais, aussi. C'est pas des espaces à nous, quoi. C'est des espaces LGBT.
J'ai la sensation en tout cas que les espaces lesbiens c'est beaucoup des espaces très militants.
Oui, je parle d'espaces de fête.
Mais oui, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est des lieux à créer, j'ai envie de dire.
J'attends que ça. Mais... Et encore, les espaces que j'ai vus qui maintenant émergent de plus en plus, c'est des soirées en non-mixité pour meufs. Genre, je pense à la Tchouin ou à la... Alors, j'ai oublié, mais tant pis.
Le truc, je crois que je vois être
que tu parles. La bringue, voilà.
La bringue. Ouais.
Donc déjà, pareil, ça, c'est à Paris. Donc, la province, on va se faire foutre, hein, comme d'hab. Et puis, c'est pas... c'est genre vraiment... Il me semble que dans leur idée, c'est non-mixité féminine, juste plus pour vesquer les mecs et vite fait love-love les femmes. Mais c'est pas le truc en mode principal, en mode love-love les femmes, quoi.
Oui, puis ça, c'est que des soirées organisées, c'est comme... Enfin, il n'y a pas de lieu exact, voilà, c'est ça, donc c'est un truc très anecdotique, quoi, finalement. Donc,
Puis les seuls bars lesbiens où je suis allée, alors, soit on m'a dit qu'en fait, il n'était plus vraiment lesbien, soit il n'y avait personne, soit il y avait des vieux mecs bizarres.
Super, grosse ambiance.
Après, j'ai pas encore fouillé à fond, mais...
Il y aura toujours des vieux mecs bien fétichistes, des femmes lesbiennes, tu vois.
Oui, alors ça...
On ne pourra pas les arrêter finalement.
Yep.
Dommage. Ce serait bien.
Mais du coup, pour en revenir au sujet de base, du coup, est-ce que vous pensez que être queer, ça rend artiste ? C'est quoi votre positionnement sur ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, moi, je trouve que déjà dans nos existences par nature, il y a beaucoup d'exploration. Et je trouve que, évidemment, l'exploration mène à la production artistique, donc tout simplement, je sais pas quoi dire de plus, mais je trouve juste que
nos
existences sont juste incroyables en fait. C'est sûr que ça mène, et puis aussi vu qu'on vit souvent en communauté, je pense que ça renforce cet esprit de on veut faire des trucs ensemble, des trucs intéressants, et du coup évidemment tout de suite on est sûr de la production, et puis nos existences sont tellement multiples que ça mène à plusieurs types d'art différents, et je pense que oui, ça peut vachement aider à la production artistique.
Bah ouais, je suis trop d'accord sur le fait que nos existences soient multiples. En gros, les personnes queer, on est un peu en dehors des normes et en dehors de la société, et genre, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais dans le livre que j'avais lu... Les écologies déviantes, il y a toute une partie sur un auteur qui parlait de ces questions-là, dont j'ai oublié le nom, RIP, mais, mais lui, il en avait une vision super intéressante, où c'était qu'en fait, les personnes queer, elles sont en dehors des normes de genre, en dehors des normes sociales, et que du coup, elles ont un point de vue plus global aussi sur ces questions-là. Après bon voilà, l'oppression fait que tu vis les travers de la société en temps réel, donc ça t'aide à prendre du recul dessus, j'imagine, mais il y a aussi tout ce côté un peu spirituel qu'on peut accorder aux personnes queer dans certaines communautés, notamment les communautés natives d'Amérique qui accordent vraiment une spiritualité aux personnes trans, notamment. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans plusieurs cultures. Le fait que si t'es en dehors des normes sociales, des normes de genre, tu peux un peu régler les relations entre hommes et femmes.
Ouais. Bah, sur ça, je m'étais grave intéressée à cette question. J'étais tombée sur un bouquin qui parle des freaks. Vous voyez un peu les spectacles, ça n'existe plus vraiment, mais on montrait genre des nains ou des gens avec des trucs physiques assez hors du commun, on va dire. Et donc, il y avait beaucoup aussi de personnes trans ou beaucoup de personnes intersexes aussi qui étaient montrées en fait, dans ces spectacles. Et en fait, dans ce bouquin, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ça disait un peu le parcours des freaks dans l'histoire, parce qu'en soi, nos existences, les existences queer, sont considérées comme quelque chose de freak, quelque chose d'un peu monstrueux, un peu bizarre, qui sort de la norme. C'est clairement la friquitude. Et en fait, dedans, il explique que, par exemple, il y a des siècles et des siècles, dans certaines communautés, les personnes handicapées étaient considérées comme des liens avec d'autres mondes. Ou en gros, les personnes qui avaient des capacités physiques ou même mentales que les autres... Enfin, s'ils avaient un problème, en gros, ce qu'on dirait problème aujourd'hui, à l'époque, c'était un don et un truc qui leur permettait de communiquer, de voir d'autres choses, des choses d'une façon que la majorité ne pouvait pas voir. Qu'en fait, concrètement, de base, on était un peu des dieux. Ça fait un peu le film. Et ouais, c'est hyper intéressant de voir que déjà ce statut-là a hyper évolué, quoi.
Mm-hmm. Bah oui. Et... C'est moins qu'on puisse dire.
Oui, oui. Il y avait beaucoup de retournements.
Pas de bol.
Mais du coup, oui, c'est clair que aussi, par rapport à ce que tu disais, Noé, le truc de comme on n'est pas dans les mêmes codes sociaux. Et que du coup, on est témoin des autres codes sociaux. Il y a beaucoup ce truc de se les réapproprier. Le drag, c'est clairement observer des codes sociaux, par exemple, de c'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme. Et le drag, il joue aussi de ces choses-là. Donc, je pense que la notion de drag, elle s'applique beaucoup aussi dans le quotidien. Avec, quand t'es trans, la performance de genre, de repérer quel code, comment les femmes, par exemple, se comporterait dans telle situation, les mimiques, les manières de se vêtir, de à peu près tout en fait. Bah, on appelle ça aussi dans la théorie queer la performance de genre. La performance, c'est techniquement un art. Alors, en fait, ouais, en cherchant si être queer ça rendait artiste, je me suis dit oui en fait.
Enfin, un peu au sens de l'observation finalement. On observe tous les comportements et même moi j'ai pensé à un truc. Les LGBT, on est quand même connus pour être les slays de la mode. Tout le monde nous dit que oh my god. Et puis des fois on dit, je me suis rendu compte que des fois il y avait des modes un peu des modes chez les gays. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre en mode des fringues qu'on mettait et tout. Genre c'est le début des tote bags, genre en mode. Et puis je me rends compte que genre plus ça va, plus tous ces trucs là sont repris genre 2 ou 3 ans après par les hétéros. Puis au bout d'un moment, le gay d'art, il marche plus, quoi. Parce
J'étais plus comment mal. Faire.
Mais c'est plus pire en pire. Identifier
mes semblables. C'est de plus en plus dur. Mais du coup, pour terminer cette discussion, je voulais quand même partager une info qui me fait énormément rire. Parce que je suis polonais, et je ne l'ai toujours pas dit sur l'émission, donc il fallait que je le dise. Et en fait, et je m'étais posé la question, est-ce que Chopin, il n'aurait pas été gay? Et en fait, si. Alors, il faut sachez qu'en Pologne, le gouvernement est extrêmement...
Tu t'es posé cette question-là comme ça, genre t'étais
tous les
dans
jours
ton
de ma
lit,
vie.
T'étais un mode Chopin.
C'est ton empire romain.
Manger de la bite ou pas, Chopin?
Et figurez-vous que oui. Et en fait, ce qui me termine de rire, c'est de m'imaginer la tête de tous les gens au gouvernement qui vraiment met en place les femmes n'ont pas de droits, les queers encore moins. C'est vraiment affreux ce qui se passe là-bas. Et en fait, il y a énormément d'institutions qui portent son nom. Et récemment, ils ont retrouvé des lettres de Chopin qui, en fait, avaient été cachées, mal traduites, machin. Et il envoie des lettres de cul à des hommes. Voilà, Chopin est gay. Voilà.
LGBTIS.
Et donc là, on va écouter une chanson de Kalika, une reprise de Jenna Lee qui s'appelle « J'aimerais tellement ». Et Kalika passe en concert à Angers bientôt, voilà.
Yay. Alors,
on sera là.
Ce n'est qu'une larme, juste un reste du passé dont je m'éloigne, mais qui ne cesse de me hanter. Ce n'est qu'une larme qui entaille mes pensées. Je retrouve mon âme, ton regard me donne envie d'avancer.
C'était Kalika avec J'aimerais tellement et elle passe au Shabada ce jeudi 25 janvier à 20h30. Donc voilà, pour celles qui sont à Angers.
Prenez vos places.
Prenez vos places.
LGBTIS.
Donc aujourd'hui, j'ai voulu parler d'un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps. C'était en lien avec le festival, la compétition du cinéma que Arte organisait entre tout le mois de décembre. Donc il y avait 12 films à voir, dont le film espagnol que j'ai regardé, qui s'appelle « Mon vide et moi, le choix de Rafi ». Je sais pas trop quel est le nom du film réellement, parce que j'ai regardé plusieurs fois sur internet et il me mettait les deux, donc je sais pas trop. Je n'ai pas le nom du réalisateur, la honte, mais ça a été
super.
Co-écrit avec la personne, le personnage principal de ce film. Du coup, le synopsis, pour que vous ayez un peu une petite idée, donc, c'est l'histoire d'une jeune femme trans française qui vit à Barcelone. Donc elle travaille dans un centre de téléphonie, un métier très, très classique. Elle rêve d'avoir une vie un peu monsieur, madame, tout le monde, avoir des enfants, un mari, un scénic et un pavillon finalement. Mais il se pose un petit problème, c'est que Rafi est queer, tout simplement. Mmh. C'est une femme trans, et ce qui est un peu étonnant au début du film, c'est qu'en fait, c'est sa psychiatre qui lui diagnostique sa dysphorie de genre. Ouais, c'est ça. Du coup, au début, c'est un peu étonnant. Et puis, au début, elle est en mode, j'ai pas de problème avec mon genre et tout. Puis bon, finalement, si. Donc, on suit toute sa transition de genre dans le film. Et ce film, ça pourrait être un film très lambda sur les personnes trans. Mais déjà, ce qui est important de savoir, c'est que la personne dont on suit l'histoire, c'est l'actrice même de la personnage principal. Donc, c'est une histoire vraie. Donc, c'est déjà beaucoup plus touchant. Puis elle a coécrit le film, du coup, comme j'ai dit.
Non, c'est trop bien.
C'est une vraie histoire et c'est pas un truc qui a été inventé par des hommes blancs cis qui ont un peu envie de romantiser la cause, quoi, tu vois.
Souvent, les personnes trans au cinéma, elles sont pas jouées par des personnes trans.
Oui, c'est ça. Oui, déjà, ça, c'est un premier gros slay, tout simplement. Et du coup, c'est un film qui aborde beaucoup de thèmes, dont le sentiment de solitude. Tout simplement, quand on se dit je suis une personne trans, mais personne n'est trans autour de moi, donc compliqué.
compliqué.
Voilà, et puis aussi des thèmes, un thème qui est vachement abordé, c'est il y a beaucoup tout au long du film un peu des conseils moralisateurs dans mode comment elle devrait se sentir, comment elle devrait explorer sa sexualité, et par des personnes qui ne sont pas concernées, des personnes cis. Donc, t'es un peu en mode, ce serait bien de fermer sa gueule.
Mais de doser.
Voilà, c'est ça. Et aussi, beaucoup, le sentiment d'illégitimité à ouvrir sa gueule devant ces personnes-là, parce qu'on se sent un peu comme un freak, comme tu disais tout à l'heure, comme un monstre qui n'a rien à faire sur cette terre. Donc,
c'est chic.
qu'est-ce qu'il y a aussi comme thème? Bon, évidemment, la sexualisation des personnes trans.
Oui.
En fait, on suit, et je trouve que c'est hyper bien parce qu'on suit vachement, du coup, ces messages. En fait, on a ces messages Tinder qu'on voit directement dans le film, et c'est des messages, je dirais pas, parce que bon, trigger warning, mais des messages quand même très hardcore de vieux mecs. Et puis aussi, ça aborde aussi la difficulté du parcours de transition, de la durée que ça prend, et toutes les complications administratives qui sont derrière, et aussi vachement la violence du système psychiatrique et médical envers les personnes trans qui remettent vachement en question les existences. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que c'était un film qui parlait à tous et toutes, que c'était vachement... Ça éduquait un peu les personnes cis qui n'ont aucun rapport avec cette communauté, qui n'y connaissent rien et qui peuvent raconter beaucoup de conneries. Mais aussi beaucoup de questionnements qui se font aussi à l'intérieur de la communauté. Et du coup, c'est pas un film qui est boring un peu quand on est queer et qu'on est au fait de ces questions-là. Enfin, je sais qu'on en avait déjà parlé par rapport à Tomboy, le film où je t'avais dit... en soi, ça apporte pas grand-chose, genre « we already know », genre, donc bon. Et du coup, il y a eu vachement le débat dans le film, parce qu'en fait, elle est dans un groupe de parole avec des femmes trans, le débat sur est-ce qu'il faut faire l'opération du sexe ou pas pour être une vraie femme, avec des grosses guillemets, hein, je le dis bien.
Ouais.
Mais du coup, ce débat, il est un peu hardcore, parce que, en fait, c'est toutes des femmes trans qui sont jouées par des femmes trans aussi dans ce film, donc très bien. Du coup, il y a tout ce débat où elles s'engueulent entre elles, en mode pour être une vraie femme, faut que t'aies un vagin, qu'est-ce que tu racontes? Et puis en fait, même à l'intérieur de sa communauté, parce que Rafi ne désire pas faire l'opération du sexe, même à l'intérieur de sa communauté, elle se sent rejetée. Et ça, c'est vraiment un bout du film qui est quand même très très hardcore.
C'est vrai que dans la communauté trans, il y a le fait, enfin, on a tous des points communs, tous, mais même trans féminin et trans masculin, c'est aussi deux sphères qui sont très différentes, avec même des codes, plein de choses très différentes. Mais c'est vrai que dans la communauté même, tout le monde n'est pas d'accord, et c'est ça qui en fait aussi la beauté, c'est que on a tous des identités qui nous sont propres, des manières de les aborder, de vouloir les changer ou pas. Et c'est ça qui peut être difficile, je pense, en tant que personne trans aussi, d'assumer sa transidentité devant des gens qui ne connaissent pas du tout le truc. C'est qu'ils vont avoir peut-être certaines notions, mais ils vont se dire « Ah, donc c'est comme ça et c'est que comme ça », alors que chacun a son parcours, ses galères, ses envies, ouais, ses problèmes, oui. ses machins. Et je trouve que c'est chouette que ça soit représenté dans un film, la discorde dans la communauté même aussi.
Après, les transmèdes, parce qu'il y a beaucoup de ce truc-là de « oui, il faut faire une transition physique pour être trans », c'est un truc qui est très ancré dans le patriarcat, etc. Genre, faut avoir les good parts, hein, etc. Et t'as pas mal de personnes dans la communauté trans qui vont être hyper virulents par rapport à ça et descendre les autres publiquement. Il y avait une TikTokeuse trans qui s'était fait alpaguer par rapport à ça et tout, parce qu'elle elle allait citer les TikTok d'autres personnes trans qui parlaient du fait que leur transition elle se faisait que par les pronoms ou que par les hormones. Tu vois, chacun transitionne comme il le veut. Et elle était en mode « Ah mais ça, c'est pas être trans. Hein. Moi, c'est pas comme ça, en fait. En fait, pour être une femme, faut une vagin. » Voilà, simplement.
Mais gère ton identité de genre de ton côté.
Oui, vraiment, ma soeur.
Genre, laisse-moi gérer la mienne, tout simplement.
Chatte,
mais oui, c'est ça, tout simplement. Vraiment.
Et ça, ouais, cette pensée-là, je la trouve hyper harmful pour tout le monde, en fait. Ça fait du mal à toute la communauté, genre.
C'est hyper violent quand tu fais déjà partie d'une communauté qui est déjà pas mal discriminée, qui en prend plein dans la gueule, de se dire, oula, même dans ma propre communauté, je suis pas forcément le ou la bienvenue, tu vois. Donc, c'est vraiment pas facile.
Ouais.
Mais bon.
Mais c'est chouette que ça soit représenté dans des films. Tu peux nous rappeler le nom du film ?
Le choix de Rafi ou Mon vide et moi. Je recherchais sur internet parce que je crois que Mon vide et moi, on trouve plus de résultats. Mais je vous avoue que c'est un peu compliqué parce que c'est des petits films, films indépendants et tout. Et c'est ça qui est aussi bien parce que c'est pas tourné comme un gros film.
Sur Mubi ?
Peut-être. Je ne sais pas, faudrait regarder. Mais c'est pas comme, par exemple, Laurence Anyways. Ou... Pourtant, ça va, c'est quand même... Xavier Dolan, c'est pas non plus un gros réalisateur, mais c'est pas un gros blockbuster, blockbuster américain où on veut un peu répondre aux fantasmes et aux questionnements un peu très malsains des personnes cis. Donc, non, ce film est vraiment très bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Non, c'est bon, c'est bon.
LGBT. Alors, je vais vous proposer des petites reviews de séries, que mon avis est le meilleur, comme d'habitude. Donc, je vais commencer par une série que... Bon, en fait, j'ai envie de vous en parler, mais j'ai pas grand-chose à dire dessus. Enfin, si, j'espère que vous l'avez vue. Si vous l'avez pas vue, c'est un truc dont tout le monde parle en ce moment.
C'est quoi ?
Frenchy Shore.
Non, je l'ai pas vu, mais
tu l'as vu ?
Oui,
ok, super, j'avais envie de parler un peu de ça parce que je l'ai vu. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est une télé-réalité produite par MTV qui est sortie en décembre, novembre 2023.
Novembre, ouais.
Et qui a retourné le cul de tout le monde, littéralement. Parce que
de la ministre de la culture aussi.
Oui, non, mais... Et en fait, c'est une télé-réalité où t'as le schéma classique, cinq meufs, cinq mecs, je sais pas combien ils sont exactement, dans une villa, qui font des jobs pour payer leur sortie en boîte, etc. Sauf que, à côté de ça, c'est des gros charros, c'est-à-dire qu'ils font que se sauter dessus tout le temps, genre il y a vraiment des... Et moi j'étais sur le fiac, j'étais en mode...
Il y a des comportements, des fois tu te dis, oula, si c'était passé à la télé nationale...
Mais ça passe à la télé nationale, non ?
Non, t'es obligé de le regarder sur Paramount Plus, ou moi je regardais en streaming du coup,
Ok, d'accord. Est-ce que moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, ça passe à la télé ? Mais
ouais,
à quelle
non.
heure ? Et ouais, genre, ça m'a grave interpellée, parce que du coup, j'ai regardé ça cette semaine, du coup, c'est dans ma tête, et je voulais en parler aujourd'hui. LGBT. Série que j'ai regardée cette semaine, qui m'a beaucoup beaucoup plu, qui s'appelle Derry Girls, qui est une sitcom sortie en 2018, nord-irlandaise, produite par Netflix. Et c'est une série assez courte, 19 épisodes, 25 minutes, donc trop chouette. Ça se regarde assez rapidement. Et on suit la vie d'un groupe de lycéennes. C'est à la fin des années 90, donc un peu vers la fin du conflit qu'il y a eu entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre, donc catholique et protestant, okay. Qui a été un conflit hyper, hyper sanglant, hyper dévastateur à ce moment-là. Et ça se passe dans une des villes qui a été le plus touchée, donc est Derry. En fait, tout ce contexte historique, il est grave relégué au second plan. Parce que ça se concentre vraiment sur ce groupe de lycéennes un peu genre débiles. Enfin, elles se mettent dans des situations vraiment, tu te dis, mais oh là là, mais ma sœur.
Suzanne Mayer 2.0 finalement.
Non mais vraiment, genre à chaque fois elles font des grosses bêtises et c'est hyper absurde et c'est super drôle, hyper léger. Elles ont des accents à couper au couteau, donc vraiment un plaisir à regarder et puis tu te marres tout le long. Et en même temps, il y a tout ce contexte qui se déroule derrière. Mais elles font avec, quoi. C'est vraiment... Il y a ce conflit et il y a la vie de ces lycéennes. Et ce lycéen, parce qu'il y a un mec dedans, mais il fait aussi partie des Derry Girls. Et lui, il est anglais et tout le monde le taille, d'ailleurs. C'est super. En fait, elles se mettent vraiment dans des... Elles ont des péripéties. Donc vraiment, elles sont un peu toutes dans des classes sociales aussi populaires. Donc, t'as tout ce conflit-là entre... être une jeune fille dans une classe populaire en Irlande du Nord pendant un conflit qui est super intéressant. Il y a ce truc-là en parallèle avec leurs camarades de classe parce qu'elles sont dans un lycée pour jeunes filles. T'en as qui sont plus riches que d'autres. Enfin, après, ça se prend pas non plus méga au sérieux. La fin m'a quand même un petit peu piqué les yeux parce que c'est la résolution du conflit, et bon, c'est un spoil, mais pas vraiment, parce que vous doutez bien que ça se finit sur cette fin-là. Enfin, par rapport au reste, c'est vraiment dans la continuité. Et voilà, il est super, je vous conseille. Donc, c'est Derry Girls.
Ok.
Voilà. Et une autre série dont j'avais envie de vous parler, c'est BoJack Horseman. Ça date, ça fait longtemps que c'est sorti, mais j'avais vraiment, vraiment envie d'en parler parce que je la re-regarde en ce moment pour la deuxième fois. Donc cette série, elle est sortie en 2014. C'est une série d'animation qui est en 6 saisons. Et en fait, tout le début, c'est un acteur d'une sitcom des années 80 qui est vraiment l'archétype de la star déchue. Genre vraiment, sa vie, c'est... c'est de la merde, genre tout le monde l'a oublié, tout le monde en a rien à foutre de lui, il est tout seul dans sa villa à boire des bières toute la journée. Vraiment, c'est littéralement un cheval, hein, je tiens à dire, le personnage est un cheval. Donc il s'en enquille des bouteilles, hein, c'est vraiment, ça me fume dans la série à chaque fois.
Cheval.
La kétamine, tout ça, ça y passe. Et c'est un personnage horrible en fait. Le personnage principal, BoJack Horseman, il est atroce. C'est vraiment un type que t'as pas envie de connaître dans la vie, quoi. Si tu le rencontres en vrai, t'es en mode, c'est un gros con. Son seul espoir pour échapper à vraiment être un has-been, c'est un mémoire qu'il est en train d'écrire grâce à une ghostwriter. Donc un ghostwriter, c'est une autrice qui va écrire le livre pour la célébrité. Et donc il veut écrire ce mémoire-là, et c'est sa seule chance en fait de un peu rester relevant. Et est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, je ne sais pas, faut regarder la série pour ça. Mais c'est très drôle, en même temps très dark, gros
c'est
trigger warning.
Très 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 déprimant.
Hein. Ouais, gros trigger warning
un peu
pour plein de choses.
Finalement.
mais vraiment, je vous la conseille à 1000%. Et ce qui est assez ouf, c'est que ce personnage horrible, en fait, il est attachant de ouf. Et c'est très conflictuel.
Même avec toi-même, j'imagine.
Oui. En tant que spectateur, en fait, tu te rends compte que tu root for him. Enfin, t'es vraiment derrière lui. Ouais. T'as envie que. Qu'il change, qu'il aille mieux. C'est un peu une relation toxique avec le personnage principal, en fait. Ouais. T'es en relation toxique avec BoJack tout le long de la série. Et à côté de ça, il y a toute cette constellation de personnages autour qui est super bien développée. Ce qui est bien, c'est que c'est pas juste les méchants, les gentils. La psychologie derrière tous les personnages, elle est méga poussée. Mais un truc, genre, t'as l'impression... les écrivains, ils ont fait la psychanalyse des persos. Genre, vraiment, ils sont retournés dans l'enfance et tout. Tu vois les parents et tout, machin, bidule. Non, c'est franchement, c'est hyper bien foutu. Et l'écriture, elle est... pépite.
Magnifique.
Magnifique.
LGBTIS.
Bah, du coup, merci pour ce super numéro.
Merci.
On vous fait tous des gros bisous. Et puis, à dans un mois.
Gros bisous.
Bisous. Bonne soirée.
Au revoir.